Je me présente, je m'appelle Aidan O'Brien. Je suis double nationalité britannique et irlandaise. Ça fait 15 ans que je suis en France, 2 ans que je suis à Bordeaux.
Je m'appelle Bertrand Bussac. Avec Aidan, on porte le projet du chapitre bordelais de la Singularity University à Bordeaux depuis l'an dernier.
Alors peut-être pour commencer, vous avez parlé d'une rencontre. L'université de la Singularité à Bordeaux est née de cette rencontre. Pouvez-vous nous en dire plus ? Comment ça s'est construit tout ça ?
J'ai monté une boîte à Bordeaux en 2014 qui s'appelle le Wagon Bordeaux, qui a pour but d'apporter un savoir-faire technique à des esprits créatifs, des créateurs, des porteurs de projets en fait. Donc l'idée c'est de leur apprendre à coder avec une formation. Depuis lors, je suis au cœur de l'activité entrepreneuriale bordelaise dans le domaine de la tech et beaucoup, je me rendais compte que dans la plupart des gens qui venaient me voir, il y avait souvent des thématiques très récurrentes, des gens qui voulaient faire le Airbnb de quelque chose, qui voulaient faire un copycat d'une solution qui existe déjà. Et du coup, l'idée, c'était de se dire, mais il faudrait peut-être que ces gens aient un outil qui leur apporterait plus de curiosité, qui les emmènerait à penser beaucoup plus loin, et notamment en apportant une vision sur des technologies qui vont être vraiment ultra présentes demain et qui, dès aujourd'hui, influencent l'entrepreneuriat. Il y a déjà beaucoup de boîtes à Bordeaux qui sont dans ce secteur-là et qui font ça. Je pense notamment au secteur de la e-santé, par exemple. Et du coup, on cherchait une solution pour apporter plus d'imagination, pour nourrir un peu la curiosité de ces entrepreneurs. Et c'est à ce moment-là qu'Eden est venu me voir avec l'idée de la Singularity Université sur Bordeaux.
De mon côté, ça fait à peu près 20 ans que je travaille dans les nouvelles technologies et je travaille beaucoup aux États-Unis aussi. Et en arrivant à Bordeaux il y a 2 ans, ça fait 15 ans que je suis en France, mais je suis arrivé à Bordeaux il n'y a que 2 ans, j'ai ressenti une vraie ouverture d'esprit. Ici dans la ville, c'est très cosmopolite. C'est très facile pour un étranger de vivre ici. Et en arrivant, pour faire court, moi j'ai tombé amoureux de la ville et on a décidé avec ma famille qu'on allait mettre racine ici. Et c'est ce moment-là que j'ai commencé de me poser des questions par rapport à comment en fait je pourrais contribuer, comment en fait je pourrais apporter un peu mes connaissances, mes réseaux de contacts pour bénéficier la ville. Et donc un des premiers meet-up que j'ai fait, c'était au Wagon. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Bertrand. Et puis après, on s'est sympathisé et à un certain moment, je lui ai dit, écoute, je pense qu'on a un vrai souci, pas juste ici, mais en Europe, dans le sens plus large. On a un peu peur de ce qui peut arriver à l'avenir. Et donc, moi, je voulais essayer de faire en sorte que d'ici 10, 15, 20 ans, on a pu accélérer la création de l'écosystème numérique qu'on est en train de bâtir ici sur Bordeaux. Moi, à l'origine, je viens de le nord-est de l'Angleterre. Et donc, moi, j'ai vu qu'il y a 100 ans, c'est que 2 générations. En fait, on était le cœur de l'économie globale avec le charbon, avec les bateaux, etc. Et là, aujourd'hui, il y a un taux de chômage énormissime. Et donc, je ne dis pas que ça va arriver ici sur Bordeaux, dans Nouvelle-Aquitaine, mais ça peut aller très, très vite. Et donc là, quand je vois la région du monde qui est en train de vraiment le cœur de l'avenir, c'est le Silicon Valley. Donc j'ai beaucoup de qu'est-ce qu'on peut prendre de cette expérience et de le mélanger avec tous les bons avantages, les atouts qu'on a ici pour faire quelque chose de notre source qui va nous donner l'avenir encore plus belle. Donc, en fait, le transhumanisme et notamment le Singularity University, c'est un sujet qui est très polémique en France. Et donc la première réunion qu'on a fait en novembre l'année dernière, c'était justement pour adresser cette question en frontale. Et donc du coup on a diffusé un film qui durait à peu près 1h15 justement sur qu'est-ce que c'est le Singularity University. Mais donc on a eu une petite centaine de personnes je pense au final qui étaient dans la salle. C'était une soirée plutôt bien réussite et c'est ça qui nous donne pas mal d'idées par rapport à la deuxième édition qui aura lieu d'ici 15 jours.
Ça intéresse les gens quand on parle de la singularité, du transhumanisme, les gens ne savent pas forcément mettre de mots derrière ou bien mettre des fantasmes et des peurs dessus, ça attire.
Je pense que ça dépend vraiment à quelle cible on s'adresse. Par ailleurs, je suis enseignant dans des écoles de commerce et quand on parle Singularity University ou transhumanisme, sur une salle de 100 personnes, j'en ai peut-être un à tout casser qui va pouvoir m'expliquer ce que c'est. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si on s'adresse finalement à la majorité des jeunes de 22, 23, 24, 25 ans, vont pas forcément avoir la culture aujourd'hui de savoir ça. Les gens qui vont plus s'intéresser, je pense que c'est des gens un peu plus âgés en fait, parce qu'ils professionnellement sont liés à ces secteurs et qui du coup vont les connaître parce qu'ils s'y intéressent. Et à partir de là, il y a souvent des positions assez tranchées. Soit des gens qui connaissent bien l'évolution et du coup ils ont pas du tout peur de ça, au contraire, ils l'attendent parce qu'ils voient tout ce qui va en découler. et des gens qui s'y sont intéressés par le passé, qui ont entendu des choses, et c'est vrai que quand on pense à transhumanisme, il y a des gens qui pensent à Robocop, ils pensent au robot qui va remplacer l'homme, et du coup, il y a aussi, c'est quand même très prégnant cette image-là, et du coup, elle fait, c'est légitime, peur. Les gens qui connaissent ce que peut apporter le transhumanisme sont pas indifférents. Soit ils sont impatients parce qu'ils voient vraiment tout ce que ça va apporter de moderne et de bien pour l'homme, soit ils vont le craindre parce qu'en fait ils le voient comme une imposture par rapport au rôle de l'homme.
Par rapport à ça justement, vous le disiez, voilà, on est pour, on est contre, en tout cas ça laisse pas indifférent. Cette université, elle est un peu particulière. Quelle forme elle a pris? Quelle forme elle prend?
Le Singularity University... La maison mère est en Californie et la façon qu'ils travaillent, c'est à trois niveaux. Ici, ce qu'on a à Bordeaux et à Toulouse, à Paris aussi également, c'est un autre niveau qui a une licence qui s'appelle une licence pour une antenne, ou eux ils appellent ça un chapitre. Et en fait, notre rôle, c'est vraiment pour animer une communauté locale. Pour les gens qui peuvent s'intéresser dans tous ces sujets de technologie exponentielle, organisation exponentielle, etc., on est là pour faciliter cette discussion. Le métrique, ou ce qu'ils se demandent de nous, on nous donne cette licence, c'est de faciliter 3 à 4 grands meet-up par an. Et aussi, éventuellement, c'est un peu plus difficile à mesurer, mais aussi de suivre les gens qui vont faire quelque chose par la suite. C'est le Singularity University, ça tourne autour de l'idée qu'en fait, comment fait-on pour avoir les nouvelles technologies exponentielles qui ont un impact positif sur la société? Donc ils veulent voir aussi qu'on n'est pas juste en train de tchatcher trois fois par an, c'est aussi pour essayer de faire quelque chose, d'agir derrière. Juste pour compléter, le deuxième niveau, c'est un niveau qui s'appelle le niveau Summit. Donc là, en fait, ça, c'est un niveau intermédiaire. Et ça, c'est si on a ce licence-là, qui n'est pas notre objectif en ce moment, c'est d'être capable de faire des réunions sur un ou deux jours. Là, nos meet-up, ils sont en durée de 2 à 3 heures. C'est souvent le soir pour les gens qui s'intéressent. Le dernier niveau, c'est les maisons-mères. Donc maisons-mères, summit et chapitre. Ça, c'est les trois niveaux.
Juste, je vais rebondir sur quelque chose que Eden a dit. Moi, quelque chose qui m'a passionné vraiment par rapport à la Singularity University, c'est un peu le credo qu'ils ont, c'est de se dire qu'au début des années 1900, on était à peu près 1 milliard, je crois, sur Terre. Plus d'un siècle après, on est 7 milliards. Ça va être quoi dans un siècle? Je ne sais pas, personne n'a la réponse, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir... La population évolue de telle sorte qu'il va y avoir des nouveaux enjeux. Et l'idée de la Singularity University, c'est aussi de voir que l'évolution de l'humanité fait que ça va avoir des grands enjeux pour demain et qu'il va falloir apporter des réponses. Et c'est un peu l'objectif de la Singularity University, c'est de comment on va pouvoir créer des entreprises avec une valeur ajoutée qui va savoir répondre aux plus grands enjeux de demain.
Ce que moi j'apprécie dans la démarche de Singularity, en fait oui, on se focalise beaucoup, surtout au début, par rapport à la technologie exponentielle, mais très vite ça va vers comment en fait on s'organise pour travailler. Le type de société de demain, c'est structuré comment? En fait, on voit les sociétés qui réussissent aujourd'hui ne sont pas du tout faites comme la société traditionnelle qu'on a. Et ce n'est pas juste ça, en fait, le Singularity University. On réfléchit aussi beaucoup par rapport à la question de gouvernance. Parce que pour moi, le vrai challenge qu'on a aujourd'hui dans la société, les technologies, ils avancent à une vitesse phénoménale. Par contre, nos systèmes de gouvernance, parce qu'une technologie en tant que telle, c'est ni bon ni mauvais. C'est en fait c'est ce qu'on fait avec. Et l'exemple classique pour ça, c'est les armes autonomes. C'est en fait c'est comment on les applique qui est important. Mais le problème aujourd'hui, tous nos systèmes de gouvernance, ils évoluent pas du tout à même vitesse que les technologies à côté. Et c'est ça pour moi qui est un vrai challenge. C'est la raison pour laquelle il faut avoir vraiment des gens de tous domaines différents. Donc c'est la raison pour laquelle nos meet-up sont vraiment grand public. On va avoir des acteurs de tous domaines différents, justement pour qu'on puisse trouver une solution pour notre région, pour notre ville.
Encore un mot par rapport au chapitre bordelais, par rapport au financement. Je crois que vous êtes bénévoles, hein, tous les deux. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez des financements? Et si oui, par qui?
On n'a pas de financement. En fait, c'est vraiment, on est bénévoles. Et l'avantage, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de monde qui nous soutient à côté. Je peux citer notamment CapScience qui nous héberge, qui nous facilite nos réunions. Des autres acteurs aussi dans la communauté. Je pense qu'ils réalisent, surtout quand on a expliqué le modèle. Parce que beaucoup de monde nous pose des questions par rapport au modèle économique. C'est vraiment la façon d'essayer de contribuer à la société, à la communauté ici, parce qu'on pense que c'est important. Donc du coup, on est prêt à mettre notre temps libre à ces activités.
En fait, il y a un modèle économique, clairement, mais il n'est pas sur les chapitres. Comme l'a dit Eden, il y a trois niveaux. Le niveau des chapitres, il est fait par des bénévoles qui sont vraiment intéressés par le sujet pour mettre en valeur l'écosystème, pour apporter des idées nouvelles. Et quand la Singularity University travaille sur les autres niveaux, notamment le premier niveau qui sont des formations qui ont lieu à la Silicon Valley, bah c'est des formations payantes avec un processus économique qu'on imagine avec. Mais ce n'est pas le cas pour nous. Et on est deux à représenter le chapitre officiellement, mais on n'est pas que deux à travailler dessus. Il y a toute une équipe de personnes qui nous accompagnent, qui sont force de proposition, qui sont là à chaque réunion, qui sont tous bénévoles.
On a parlé de l'écosystème, enfin, vous avez évoqué ici à Bordeaux, au niveau de cette thématique de la singularité. Il y a plusieurs entreprises, des start-up ou des entreprises un peu plus développées qui travaillent sur ces thématiques-là. Vous pouvez nous donner quelques exemples, un petit panel de ce qu'on peut trouver ici en région bordelaise ?
Alors, ce n'est pas des entreprises qui sont liées à la singularité en tant que telle. Ce qu'il faut voir surtout, c'est que la singularité, c'est autour de plusieurs thématiques fortes et d'un certaines thématiques qui font réellement écho dans les entreprises qu'il y a à Bordeaux. Je pense notamment à la santé, à la réalité virtuelle. Il y en a d'autres, hein, les gouvernances, la résilience, il y a tout un tas de thématiques qu'on pourra évoquer un peu plus tard. Mais si je prends notamment le domaine de la santé et de la réalité virtuelle, il y a certaines sociétés sur Bordeaux qui sont très présentes et qui font énormément de choses à ce niveau-là. Je pense à des sociétés comme Sim4Health qui travaillent sur de la simulation virtuelle pour former des soignants, donc ils les mettent dans un contexte où la réalité virtuelle devient un outil de formation pour des médecins, parce que par exemple, on sait que le médecin ne doit jamais pratiquer le premier acte, enfin, la première fois, il fait un acte directement sur un patient, c'est une règle de médecine. Dans les faits, c'est très compliqué à garder cette règle en place. Ben là, l'idée, c'est de le faire virtuellement. Donc, ça, c'est Jérôme Leleu qui dirige cette société. Il y a Clément Gers, qui est un médecin qui est basé sur Bordeaux, qui est jeune, hein, qui a 28 ans, qui a fait quelque chose de très intéressant, c'est que pendant ses études en médecine, il a également fait des études à Stanford. Il s'est vraiment intéressé à l'économie. Et il a créé une société qui s'appelle Synapse, qui travaille également dans le domaine de la santé, mais de l'intelligence artificielle. Et il pourrait vous l'expliquer mieux que moi, mais ce qu'il m'avait dit, c'était qu'il y avait aujourd'hui la troisième cause de mortalité dans le domaine médical, c'est l'erreur médicale. C'est dû à un facteur humain. Donc Clément, avec Synapse, l'idée de sa société, c'est que l'intelligence artificielle accompagne le médecin sur la prescription, sur tous les points clés qu'il faut faire quand on accompagne le patient. Et comme ça, ça remet le médecin au centre de la visite avec son patient, et il y a un côté très empathique. C'est que finalement tout le côté très mécanique peut être délégué à l'intelligence artificielle et qui va faire qu'il ne va pas y avoir d'erreur médicale, et ça remet le médecin au cœur de sa consultation. Il peut se concentrer sur ce qu'il ne verrait pas forcément s'il était vraiment obnubilé par tout ce qu'il doit checker à côté. Et donc l'idée, c'est de voir que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer le médecin, il va juste lui permettre de faire son travail encore mieux. Et de même que de l'exemple de Sim4Health avec la réalité virtuelle, ça va vraiment être une nouvelle technologie qui est un des enjeux de la Singularity University, qui est la réalité virtuelle, vient au service d'une autre profession qui est le domaine de la santé. Et c'est vraiment cette idée-là qu'on voit sur des boîtes à Bordeaux, et qu'il y en a plein d'autres à Bordeaux et en France. Et c'est vraiment ça que je trouve intéressant.
Donc il y a vraiment une volonté didactique, ou en tout cas d'éducation entre guillemets à ces nouvelles technologies par rapport à la population ou ceux qui sont intéressés. Ça part d'un constat que vous avez pu faire. Il y a un manque de connaissances par rapport à ces thématiques-là ici et plus largement en Europe, ce que vous disiez tout à l'heure.
Je pense que c'est pas spécifique à Bordeaux. Je pense que c'est partout. Je pense que les gens sous-estiment à quel point ces technologies jouent un rôle dans la vie aujourd'hui. Donc, en parlant de l'influence de Google, Facebook et autres, les technologies qu'ils utilisent, c'est vraiment très important. Après, moi, j'ai la chance de travailler beaucoup aux États-Unis et aussi ailleurs au monde aussi. Donc, je peux voir les différences, et notamment par rapport aux relations, par rapport aux données. Donc là, j'étais à San Diego en décembre. Je parlais avec des Américains qui sont dans les services de défense, etc. et tout ça. Et effectivement, on a un thriller par rapport aux données qui, eux, ils n'ont pas forcément aux États-Unis et en Chine. Et donc, du coup, moi, je considère que ça, c'est un vrai désavantage quand on pense par rapport à l'avenir, ce qu'on peut faire avec. Et donc, on voit toutes les nouvelles réglementations qui arrivent avec le GDPR la semaine prochaine. Et donc, pour moi, ça pose une vraie question par rapport à comment, en fait, on aborde ce sujet pour rester compétitif dans l'économie qui est très clairement mondiale en nature. Donc,
Le problème viendrait de la réglementation. C'est ça qui fait la différence. Trop grande réglementation ici en Europe par rapport aux autres pays comme les États-Unis ou la Chine.
Je pense qu'en fait, ici, il y a beaucoup, beaucoup de réglementation. Mais après, il faut comprendre que en fait, la réglementation, ça sert à quelque chose. Ça sert à protéger des gens. Mm-hmm. Ce n'est pas juste une question de réglementation. Mais je pense que c'est une notion. Il faut qu'on voit aujourd'hui, on peut faire des choses différemment. Dans le passé, en fait, la façon qu'on utilise les réglementations pour protéger des gens, c'était pour, il faut faire des examens, ou il faut faire des tests, ou il faut acheter une licence. Et donc, du coup, c'était vraiment une barrière à l'entrée. Là, aujourd'hui, quand on voit à quel point on peut avoir les données en temps réel, par exemple, en fait, maintenant, on peut faire la surveillance en temps réel. On n'a pas besoin de mettre toutes ces barrières à l'entrée. Donc, je pense que ce n'est pas forcément question d'avoir beaucoup de réglementations. C'est aussi la façon qu'on réfléchit par rapport à ça. C'est souvent, on voit que l'économie est de plus en plus dominée par les grandes boîtes de plateformes comme Amazon ou autres. Et en fait, c'est plutôt de dire... Il faut éviter que ces sociétés-là, ils ont trop de dominance, ou en fait, il faut pas qu'ils ralentissent l'innovation des autres, etc. Donc, je pense qu'il faut reconcevoir la notion de la réglementation à l'avenir. Mais ça, c'est juste une partie. Je pense qu'il y a beaucoup de pratiques que ce sera bien si on apprend à travailler dans une autre façon. En fait, moi, je cite toujours. Ce qui s'est passé il y a 200 ans, c'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que les nouvelles technologies du jour, la révolution industrielle, ça nous a obligés de revoir comment en fait, on organise les gens pour travailler. On avait des artisans, des ouvriers, et donc du coup, on a complètement éclaté le boulot d'un artisan et on a demandé aux ouvriers de faire qu'une partie. Et donc, c'est ça qui était le début de ces organisations silotées. Aujourd'hui, les nouvelles technologies qu'on vient de citer déjà, ça, en fait, ça nous permet d'être hyper connectés et de travailler beaucoup plus vite. Moi, j'ai mon père qui a géré 18 heures plus tôt. J'ai dit, comment en fait, tu as pu gérer 18 heures plus tôt en Angleterre sans avoir un téléphone portable? Et lui, il me regarde en disant, mais comment en fait, tu peux aller bosser en prenant l'avion toutes les semaines? C'est complètement différent notre façon de travailler. Et donc, c'est les outils qu'on a à notre disposition. Il faut qu'on comprenne comment en fait, on les utilise pour mieux travailler, pour faire plus de choses plus intelligemment. Donc, la réglementation, ça fait une partie, mais ce n'est pas tout.
Par rapport à ça, au niveau de l'actualité, il y a quand même des choses qui bougent. Je pense notamment au rapport sur l'intelligence artificielle qui est sorti il y a quelques semaines. Sur les débats... à propos des états généraux de la bioéthique qui peuvent toucher des thématiques de la singularité. Ça va dans le bon sens, selon vous, de ce que vous avez pu voir ou est-ce que c'est pas suffisant encore?
Pour moi, dans l'ensemble, je pense que de savoir ce que les gens font avec nos données, comment en fait ils le font, avec qui ils le partagent, je trouve dans l'ensemble, c'est très bien. Je pense que jusqu'au présent, qui est souvent le cas, si on pense de toutes les innovations technologiques, c'est souvent, en fait, on est juste content que ça marche. Et puis après, on dit, si ça marche, super bien. Là, maintenant, on va essayer de faire marcher plus vite. Et puis, en fait, on arrive à réfléchir par rapport à la sécurité du truc beaucoup plus longtemps après. Et donc, là, maintenant, je pense qu'on est en train de réaliser, depuis le début du XXIe siècle, qu'en fait, on a eu énormément d'innovations. Et là, on est en train de revenir en arrière en disant, écoute, peut-être on est allé un peu trop loin. Donc, pour recalibrer ça, je trouve que ça a du sens et c'est utile. Le deux challenges, le défi, le problème que je vois, c'est un risque d'aller trop loin, qu'en fait, ça devient trop fermé. Donc là, maintenant, on voit justement par le start-up sur lequel on est en train de travailler, là, tous les accès, par exemple Facebook, c'est coupé. Donc, du coup, ça rend l'innovation beaucoup plus difficile pour beaucoup de choses différentes. Donc, on a un problème qu'on va revenir en arrière trop, et donc ça va être trop de contraintes. Et après, c'est un peu normal quand on a cet effet de bascule, mais il ne faut pas qu'on va trop loin, et surtout parce qu'on vit dans ce monde globalisé. Donc, du coup, chaque chose qu'on fait ici pour nous, en fait, et les autres acteurs qui sont en train de prendre plus de parts de marché, ils sont en train de voir ça différemment. Et donc, du coup, il faut juste en prendre ça en compte parce que ce n'est plus juste une question de marché national ou européen, etc.
Pour faire un retour sur la singularité University en Californie, qui a été créée en 2008. Les deux principaux fondateurs, Ray Kurzweil et Peter Diamandis, sont ouvertement transhumanistes, ou sont les chefs de file du mouvement transhumaniste. Est-ce que vous vous inscrivez dans ce mouvement? Comment vous positionnez-vous dans le chapitre bordelais par rapport à ce courant idéologique.
Effectivement, donc ils sont bien connus qu'ils sont transhumanistes. Le Singularity University, en fait, le principal pour l'université, c'est comment en fait, ces nouvelles technologies peuvent avoir un impact positif dans notre société. Eux, ils ne sont pas focalisés sur la date précise, le moment que les machines ils vont être plus puissantes que l'homme, etc. Ça, ce n'est pas l'objectif dans la vie. L'objectif, c'est comment en fait, on peut utiliser les technologies pour mieux vivre et pour avoir des impacts positifs. À titre personnel, moi, je ne me considère pas comme un transhumaniste. Moi, je me considère plutôt comme un humaniste qui a une forte expérience dans le domaine des technologies. Donc, moi, je le vois comme un outil. Et donc, c'est un outil que je connais très bien. Donc, comment, en fait, je peux utiliser cet outil pour avancer ma partie humaniste?
J'ai exactement la même vision. Vous savez, moi, je suis un entrepreneur, donc je vois des problèmes et je vais chercher voir quel est le produit qui va apporter une solution. Et du coup, pour moi, la technologie, c'est un outil qui doit être au service d'un problème, qui va être un problème de l'homme et dont l'homme va se servir. Donc, au final, c'est une vision qui va être plus humaniste et qui rejoint exactement ce que vient de dire Hayden.
On pourrait dire aussi que derrière la singularité technologique, eux, dans leur vision, un changement de paradigme de l'humanité. Donc il y a quasiment une forme de techno-utopie, de vision quasi messianique, religieuse du progrès technologique qui nourrissent un peu chez eux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais...
Je pense que c'est sûr qu'en fait, c'est des gens passionnés. Comme nous sommes des gens passionnés. Je pense que c'est aussi un peu la culture, la mentalité sur le côte ouest aux États-Unis que je fréquente depuis pas mal de temps. C'est vraiment cette notion que tout est possible. Après, ce que moi j'ai pu constater depuis un certain temps, c'est que là-bas, en fait, la notion juste de faire des choses farfelues, c'est plus ça. En fait, les gens, ils veulent vraiment essayer de voir qu'est-ce que les choses positives qu'ils peuvent faire avec cette technologie-là. Donc, peut-être dans le passé, cet aspect religieux, culte, ça pourrait être plus fort, mais moi je le vois pas comme ça personnellement, que soit quand je suis à la Singularity University en Californie ou soit quand je me promène plus généralement sur le côte ouest, je le vois plus comme ça.
Qu'est-ce que vous pensez des propos de Ray Kurzweil quand il dit que la technologie est la continuation de l'évolution par d'autres moyens?
Ça reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, la façon c'est que la technologie c'est ni bon ni mauvais, c'est en fait ce qu'on fait avec, et donc c'est la raison pour laquelle moi j'inscris dans la notion de homme augmenté. C'est l'exemple que Bertrand il a donné par rapport aux sociétés. Synapse, par exemple, qui va aider un médecin. J'espère que ce n'est pas trop naïf de dire ça, mais j'espère qu'en fait, on est suffisamment intelligent pour garder le contrôle sur le contexte. On peut quand même contrôler le contexte politique autour de ces technologies, justement pour garder la main dessus, pour qu'en fait, oui, ça peut nous augmenter, ça peut nous aider, mais c'est vraiment ça, c'est pour nous aider, ce n'est pas pour nous remplacer. Donc ça, c'est ce que j'espère qu'on va voir par la suite.
Après, il y a des débats sur ça. Bon, une des personnes très connues pour avoir des positions tranchées, c'est Elon Musk. Je trouve que sur les warnings qu'il a mis par rapport à ça sont très pertinents, mais ça rejoint ce que Eden vient de dire, c'est que c'est ni bon ni mauvais, c'est ce qu'on en fait, et finalement ce qui est à la base de ce qu'on va en faire, c'est les décisions humaines. Donc la technologie, pour moi, elle va apporter beaucoup de choses à l'homme. Mais après, qu'est-ce que l'homme va en faire? Est-ce qu'il va en faire du bien ou du mal? Finalement, c'est entre les mains du futur et du futur géré par l'homme.
Je suis plus inquiet par le risque d'inégalité. Donc là, en fait, aujourd'hui, on voit déjà que les inégalités dans la société. Et donc, je pense que le risque qu'on court, c'est que ces nouvelles technologies, ça peut augmenter ou ça peut pousser ça encore plus. Et donc, il faut qu'on soit très vigilant par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle je redis, c'est nos systèmes de gouvernance qu'il faut voir en priorité pour voir comment, en fait, la façon qu'on a pu gouverner nos sociétés dans le passé, comment, en fait, on peut modifier ça, justement, pour rester en phase avec ces avancements technologiques qu'on voit.
Sur le terrain plus politique de la gouvernance, Peter Diamandis, que pensez-vous quand il pense que les hommes politiques sont dépassés, quand il appelle à se passer de la politique et il pense que le monde de l'entreprise est le seul à prendre des bonnes décisions?
Ah bah, tu parles de quelqu'un qui vient du monde de Brexit, donc c'est là. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce propos. Je pense que de gouverner des sociétés aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. La société a évolué à un point, ce n'est pas du tout comme une petite tribu d'une cinquantaine de personnes. On a des elders qui gèrent tout ça. Le monde est beaucoup plus compliqué. Mais c'est juste dans la même façon que on a des gros groupes, des grandes entreprises. Il faut que la personne qui gère ça, il sait se mettre autour de lui les bonnes personnes. Je ne suis pas d'accord que les hommes politiques, c'est que des mauvais, ils sont complètement dépassés. Non, mais je pense qu'il y a des bons, mais il faut les aider aussi. Et s'ils sont ouverts d'être aidés, je pense que c'est plutôt pas mal.
Vous parliez tout à l'heure de vigilance. Est-ce que vous ressentez le besoin, ou est-ce qu'il y a un besoin certain de poser des jalons éthiques, des limites dans le développement de ces technologies ?
Je pense que oui, mais je pense qu'avant de faire ça, il faut qu'on commence à avoir une vulgarisation de ses connaissances. Je pense que les gens... Il n'y a pas suffisamment de monde qui apprécie ce que c'est ces technologies. Donc, sans avoir cette connaissance, c'est difficile de dire ben, voilà les jalons, voilà les limites, parce que je pense que c'est à tout le monde de contribuer à cette discussion. Mais il faut alimenter ces gens-là avec les éléments clés. Mais ça, c'est très clairement une des raisons pour lesquelles on est allé chercher la licence pour Singularity University sur Bordeaux, très clairement.
Juste par rapport à ça, l'éthique, elle est déjà mise en place, en fait. Si on prend par exemple dans la santé ou autre, les ministères, les hôpitaux, enfin, il y a déjà vraiment des comités qui sont dans la réflexion pour ça, il y a déjà des choses qui sont mises en place. Le rapport Vellani sur l'intelligence artificielle met également des choses en place sur la réflexion. Donc naturellement, les professionnels mettent déjà en place des choses. Les politiques s'entourent d'experts qui vont eux-mêmes chercher à mettre en place des comités sur ça. Donc il y a déjà une direction sur l'éthique à prendre par rapport à tous les choix qui va y avoir. Là où c'est compliqué, c'est que est-ce que l'on va être assez rapide par rapport aux choix éthiques qu'il faut faire par rapport à la vitesse où la technologie avance ? Et ça, moi, j'ai absolument pas la réponse.
Tout en sachant que souvent le problème, c'est la question d'éthique. Il nous faut un peu plus de recul. Et en fait, avec les technologies, on n'a pas forcément besoin d'un avancement technologique. On peut faire ça beaucoup plus vite. Mais oui, il faut aller plus vite. Mais forcément, il y a un décalage dans le clock speed, si on dit ça en français. Mais c'est ça qui diffère entre les deux. Donc, c'est ça qu'il va falloir gérer.
Sur les deux avancées, les deux fronts, les deux versants du transhumanisme, qui sont à la fois le génie génétique et l'hybridation homme-machine, on parle d'interface cerveau-machine, d'implants neuronaux, etc. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que parfois les scientifiques jouent aux apprentis sorciers ?
Alors c'est très personnel, mais je pense qu'il y a un geek au fond de moi qui est passionné par l'évolution. Et je pense que quand on parle aussi de Peter Diamandis, il y a un moment où on est tous passionnés par l'idée de voir à quel point la technologie va faire progresser des choses. Du coup, je pense que c'est passionnant de voir jusqu'où ça va aller. Est-ce que ça va aller trop loin ? Est-ce que ça va prendre une importance ou ça va sacrifier les aspects de l'homme ? J'en sais rien, je peux pas le savoir. Encore une fois, j'en reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, il y a un moment où je pense que, avant que ça se fasse, on va passer par des tests, des protocoles rigoureux qui vont être mis en place par des comités éthiques pour éviter qu'il y ait des débordements abusifs. Et je fais confiance dans ces protocoles.
Je pense que c'est inné, c'est humain de vous tester les limites, en voir les petits, en voir comment en fait la façon qu'ils apprennent. On est justement en train de faire exactement la même chose, mais en tant qu'adulte bien éduqué, bien formé, etc. Donc je pense pas qu'on peut s'attendre que les gens ils ont dit bah, écoute, on va s'arrêter, on va plus essayer de chercher et tester ses limites. Par contre, c'est ce qui est primordial, c'est le contexte dans lequel on le fait. Et donc, en fait, il faut avoir un environnement où on peut partager, on peut expliquer ce qu'on est en train de faire et aussi d'avoir la possibilité de dire bah, stop, là, pour l'instant, on n'est pas à l'aise avec ça, il faut qu'on soit capable de faire ça. Mais pour arriver à faire tout ça, il faut une transparence importante.
Après, si demain, une puce greffée dans le cerveau permet de limiter Alzheimer à une personne, ce sera incroyable comme avancée. Moi, je trouve ça fantastique. Après, est-ce qu'il y aura des dégâts humains pour y arriver, c'est possible, mais c'est aussi l'évolution de là, sur ce secteur précis, on est sur le domaine de la santé par exemple. Enfin, il y a un siècle, l'évolution c'est arrivé à faire une césarienne. Il y a eu quelques décès avant d'arriver à faire une césarienne où on sauve à la fois la mère et le bébé. C'est aussi l'évolution naturelle de la santé, de nos connaissances qui fait qu'on doit passer par ce processus.
Mais est-ce qu'on prépare forcément un futur désirable ? Parce qu'on pourrait arriver à se demander une vision d'une humanité machine, d'un homme machine dans un monde machine. Est-ce que cela vous paraît souhaitable, en fait ?
Pour moi, en fait, c'est... Le vrai problème actuel, le vrai problème qu'on va vivre, qui arrive dans les médias, c'est par rapport à la notion de travail et d'emploi. Et la raison pour laquelle je dis ça, parce que je pense que le génie est sorti de la bouteille. On ne va pas le remettre. Donc, il faut vivre avec. On essaie de vivre avec les technologies de AI, de blockchain et autres, etc. Il faut le vivre dans une façon intelligente. Je pense que c'est tout à fait possible d'améliorer les conditions humaines avec ces technologies. Le problème que je pense qu'on va arriver à confronter assez rapidement, c'est que suite à un vrai changement, un vrai bouleversement qu'on est en train de vivre avec ces technologies, on voit qu'il y a toujours une période de dislocation sociétale. Et donc, du coup, je pense que dans un premier temps, le temps qu'il nous faut pour identifier, pour créer le nouvel type d'emploi, on va avoir une période prolongée de chômage important. Et donc si aujourd'hui, en fait, c'est marrant parce que quand on rencontre de nouveaux gens, souvent la première chose qu'on dit après avoir dit notre nom, c'est le travail qu'on fait. On s'identifie avec notre travail. Et donc le moment que, en fait, on n'a plus besoin d'avoir autant de gens actifs, ben là, en fait, la question, est-ce que les gens ils vont perdre leur raison d'être? Et donc là, à ce moment-là, ça peut être un vrai problème pour la société. Donc avant que ça s'améliore, je pense qu'on aura un moment en fait, où la vie, la société en général, ça va être très dur à vivre. Il va falloir réfléchir par rapport à ça, pour ce qu'il faut mettre en place, justement pour soutenir ces gens pendant cette période de bouleversement.
Par rapport à ça, moi j'aime beaucoup l'expression qu'Eden vient de dire, enfin, cette expression, je crois qu'il vient de l'inventer, mais enfin, le génie est sorti de la bouteille. Une fois que l'homme a goûté à tout ce que la tech peut lui apporter, c'est une forme d'addiction quelque part. Je pense qu'on pourra jamais revenir en arrière, on pourra jamais sevrer l'humanité de la technologie. Moi j'y crois pas, c'est ma vision. Après, quand on s'est rencontrés d'ailleurs, tu m'avais, je parlais d'Anne, il m'avait dit une expression que j'avais beaucoup aimée. C'était quand la marée monte, elle monte avec tous les bateaux. Et moi, c'est à ça que je crois vraiment. C'est que oui, les nouvelles technologies vont changer le paradigme professionnel, les métiers vont tous évoluer. Mais l'idée, c'est de créer justement un écosystème riche, sur Bordeaux et ailleurs, hein, mais un écosystème riche qui va générer de nouvelles économies, donc des nouveaux métiers, et qui vont finalement, en arrivant, en s'inscrivant et en émergeant sur le territoire, entraîner toute une flopée de nouveaux secteurs avec eux. Et cette vision de la marée monte avec tous les bateaux, c'est vraiment l'idéal que je vise et ce en quoi je crois. Et ce qu'on vise avec l'université. Après, ça implique quelque chose de très concret, ça, c'est la formation des gens derrière. Il faut que les gens soient formés de diverses et d'autres façons pour pouvoir suivre cette marée.
C'est quelque chose que j'ai trouvé difficile pour les gens. Ils ne savent pas ce que c'est bon à l'avenir. Et donc, du coup, par exemple, les sociétés. Donc, parce qu'on parle tous d'emploi, tous de boulot, c'est quelque chose qui préoccupe tout le monde. Et donc, du coup, en fait, ce que j'ai pu voir avec ces nouveaux types de sociétés, la plupart des membres, ils ne connaissent pas ce nouveau monde. Et donc, en plus, ce qui est pire, si on a des gens qui ont 5, 10, 15 ans de boîte, si on leur pose des questions, mais qu'est-ce que tu sais faire? La plupart, ils vont répondre, je ne sais rien faire. À la fois, ils sous-estiment les compétences qu'ils ont dû acquérir parce qu'ils étaient dans une vie active depuis 15 ans, mais à la fois, ils ne comprennent pas ce qui est important pour la société de demain. Et donc, du coup, on a énormément de problèmes. On a le premier problème, ils ne savent pas ce à laquelle ils doivent aller à l'avenir. Ils ne savent pas les compétences, les bases qu'ils ont aujourd'hui. Et donc, forcément, c'est extrêmement difficile pour eux de dire, comment en fait je vais de où je suis aujourd'hui vers ce dont je vais être demain. Et donc, du coup, pour articuler, pour chercher les bonnes formations, pour être prêt pour ce changement, ça c'est très très compliqué pour la plupart de monde, surtout parce qu'il y a encore moins de monde qui peuvent les conseiller et qui peuvent les accompagner sur cet changement.
Ouais, vous parlez d'adaptation, de formation, de vulgarisation, mais ne faudrait-il pas aussi se poser la question du bien fondé des recherches, des fins que l'on poursuit en amont, en fait, plutôt que de miser beaucoup plus sur les moyens, sur les perspectives économiques. En fait, la question du sens, du pourquoi, contre la pure finalité économique, la rationalité économique.
On arrive de parler de le rôle de l'argent dans la vie. Et donc, ça, c'est un sujet qui est très compliqué. Je pense que ce sera sympa de penser qu'en fait, on pourrait imaginer justement cette utopie vers laquelle on est tous d'accord pour faire ça. Mais je pense que là, en fait, avec des milliards de personnes sur Terre, on ne va jamais être d'accord sur le résultat final qu'on veut. Donc du coup, autant qu'on pourrait imaginer ce que c'est la fin, je pense que c'est très compliqué de faire. Et malheureusement, à la place, je pense que les gens ils restent très motivés par l'argent. Et donc, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au rôle de l'emploi à l'avenir, je pense que si, en fait, effectivement, si on vit cette période où, en fait, on n'est plus en train de chercher un boulot, la question, c'est pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est plutôt comment, en fait, tu t'occupes dans la journée. Si on arrive vers cette finalité, je pense peut-être à ce moment-là, on peut se reposer les questions parce que peut-être le rôle d'argent est différent si on arrive vers un revenu universel. Après, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça pour des autres raisons, mais peut-être à ce moment-là, si on voit ce changement-là, peut-être ça va nous permettre de réfléchir différemment par rapport à ce que ça peut être la suite. Mais aujourd'hui, je pense que c'est très compliqué.
Pour développer toutes ces technologies, les technologies émergentes, les technologies NBIC, On a besoin de terres rares, de minerais, de métaux, de ressources, et ça engendre des destructions environnementales accrues, et ces ressources en elles-mêmes sont finies. Directement se profile le risque aussi d'un accroissement des inégalités et d'une humanité à deux vitesses, où les riches auraient accès, voilà, et... Je voulais avoir votre avis là-dessus.
L'exemple typique auquel je pense en t'écoutant, c'est on remplace le pétrole par des batteries pour les voitures électriques. Mais les batteries, il faut aller chercher la matière première pour les créer. On est en train d'appauvrir des pays entiers en Asie pour aller chercher ça. Et on déplace en fait une catastrophe. On la déplace d'un bout du globe à l'autre. C'est évident que c'est grave. Pour ça, j'ai absolument pas la solution par rapport à ça. C'est quelque chose qui doit rentrer en compte dans les enjeux des problématiques de l'évolution. Ça n'a pas de sens que l'évolution soit juste de déplacer un problème d'un coin du globe à un autre. Ça, c'est évident. Après, je pense qu'il y a des choses qui nous dépassent, en tout cas moi qui me dépasse, qui sont les lobbies. Je pense qu'il y a des solutions qui sont en réflexion auprès de gens partout sur plein de choses qui ne sont pas mises en avant parce qu'il y a des pressions, il y a du lobbying. Personnellement, je ne m'y connais pas assez là-dedans pour avoir un avis précis. Moi, ça m'a toujours dépassé. J'ai jamais compris pourquoi certaines avancées sont bloquées injustement. D'un autre côté, je me dis que si demain, tout le monde était beaucoup plus curieux de ce qui se fait et qu'il y aurait une acculturation globale de tout le monde sur les possibilités, je pense que ça limiterait grandement le pouvoir de tels lobbies. Les lobbies n'ont leur pouvoir que par l'ignorance d'un trop grand nombre, en fait. Et si on arrive à limiter ça, on limite directement le pouvoir des lobbies.
J'ajouterais juste, c'était une amie, Bernard Clavery, qui a dit l'autre jour, il a dit, oui, c'est sûr qu'on est dans un monde où en fait, il y a énormément d'inégalités. Je pense que ça risque d'être de pire en pire. Mais à côté de ça, en fait, ce qu'il a dit, c'est... Il faut faire confiance aux jeunes. Voir aujourd'hui les gens, les générations qui viennent, ne sont pas du tout comme le nôtre. Là. On est plutôt dans le qu'est-ce qu'on peut acheter, donc les symboles de statut, les maisons, les bateaux, les voitures et tout ça. Moi, je vois de plus en plus les jeunes que je fréquente en Europe, aux États-Unis, en Asie, partout. Ils ne sont pas du tout les mêmes préoccupations. Là, maintenant, on peut dire qu'aujourd'hui, en fait, ils disent ça, ils sont pas mariés, ils n'ont pas d'enfants, et puis peut-être à 35 ans, ils auront le même avis que nous. Là, ce que Bernard, il a dit, et lui, il voit beaucoup plus d'étudiants, beaucoup plus de jeunes que moi, il les voit tous les jours. Là, en fait, il dit, il faut faire confiance à ces gens-là. Donc, j'espère que oui, les inégalités qu'on peut constater aujourd'hui, c'est sûr qu'ils ne vont pas disparaître. Donc, ça, c'est juste la condition humaine pour l'instant. Mais j'aimerais bien espérer que, en fait... on commence d'avoir des gens qui se préoccupent beaucoup plus que peut-être les générations précédentes.
Mais l'idée d'un système à deux vitesses créé par justement cette recherche de toujours plus de progrès technologique, vous pouvez
ça,
la...
Mais ça dépend à quel but tu mets les avancements technologiques. Si en fait on a deux vitesses, mais la première vitesse avec toute cette nouvelle technologie, c'est pour essayer d'améliorer les conditions de la deuxième vitesse. Donc peut-être on va voir que ces deux, ils reviennent ensemble. Ça tout dépend de ce qu'on disait tout à l'heure. Tout dépend de ce qu'on fait avec ces technologies.
Pour finir, une question plus générale, quasi philosophique, quelle est votre définition de ce qui fait, de ce qui constitue l'humain ?
En fait, là, je pense que maintenant, ça fait peut-être 17 pays différents dans lesquels j'ai travaillé ou j'ai vécu. Et ce qui est super intéressant, c'est chacun est très différent, mais au final, tout est pareil. Pour moi, par exemple, j'adore aux États-Unis. Franchement, j'adore y aller. Mais quand j'y vais, en fait, autant que je l'adore, ce que je constate, c'est que je ne suis pas du tout américain. Et en fait, c'est même encore plus que ça. En fait, je me sens mais européen. Je me sens pas anglais, pas irlandais, pas français. C'est vraiment européen. Et après, les gens, ils peuvent me critiquer en disant, mais non, mais voilà, parce que t'es le global elite et tout ce que tu veux. Peut-être c'est le cas, mais en fait, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est la façon, c'est ce que je ressens. Donc, en fait, je compare avec quand je suis allé en Chine récemment, je parlais avec des amis chinois. Et donc, et on voit, c'était pareil en Inde, en fait, les gens, ce qui les intéresse, c'est la famille, c'est les emplois, le travail, et c'est un loisir, une activité. Et donc, du coup, peu importe où on est, je pense que ça, c'est à peu près pareil partout. Et donc, pour moi, à la limite, c'est cette interaction, c'est ces préoccupations qui sont la condition humaine pour moi.
Donc ta question c'était qu'est-ce qui différencie l'homme de la machine ? Qu'est-ce qui fait qu'un homme est un homme ? Je dirais que c'est parce que l'homme est capable de sentiments et tout ce qui va avec du coup. C'est-à-dire qu'il va être capable d'empathie, là où la machine n'aura pas cette capacité-là. Il sera capable de faire des décisions qui ne sont pas pragmatiques. enfin qui sont pas très la logique dicterait quelque chose qu'une machine suivrait, là où l'homme va prendre en compte ses sentiments pour aller vers quelque chose qui est totalement illogique, qui est peut-être une erreur ou pas, après c'est l'avenir qui le dira. Et puis cette capacité du coup derrière à rebondir sur ses erreurs, bon, j'en ai fait plein dans mes erreurs, j'en ferai encore plein, mais finalement chaque erreur que j'ai faite m'a appris quelque chose. Et c'est là où il y a quelque chose qui fera toujours la différence, c'est que cette capacité de l'homme d'avoir des sentiments et d'agir en fonction.